Bonjour tout le monde, ici Eugénie Francoeur, ex-journaliste, directrice générale d'une petite fondation et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit sur la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Je vous souhaite la bienvenue sur la balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers cette balado, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse aussi vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que ma croyance et mon enthousiasme se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Je tiens à vous rappeler que l'objectif de cette balado est purement informatif et ne remplace en aucun cas un avis ou un diagnostic d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Si vous souhaitez de l'information supplémentaire et si vous avez besoin d'aide, je vous invite à chercher une personne pleinement qualifiée qui pourra vous aider. Bonne santé. Allô tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de choses qui vont vous faire bien plaisir. Manger gras tout en prenant soin de votre santé. Et pourquoi pas? Depuis quelques années, le régime cétogène, qu'on appelle aussi régime faible en glucides et élevé en gras, a le vent dans les voiles. Il est de toutes les tribunes un peu partout dans le monde occidental. Depuis que je m'y intéresse, ma page Facebook est inondée d'informations et de propositions de toutes sortes. La science nous oblige à remettre les pendules à l'heure et surtout nous amène à questionner la croyance qui nous a été inculquée depuis notre plus jeune enfance, celle de nous méfier des gras et de surtout ne pas en abuser. De nos jours, nous avons amplement d'informations qui nous confirment que notre cerveau a besoin de gras, de bons gras, de beaucoup de bons gras. Il en va de même pour tout notre corps. J'ai une raison bien personnelle de m'intéresser au régime cétogène. J'ai une tante qui est morte d'une forme de démence avancée et qui a passé les dernières années de sa vie dans une grande souffrance. Cette même tante refusait depuis plusieurs années de manger quelque forme que ce soit de gras, que ce soit les noix, les graines de lin, les huiles ou les viandes grasses, elle avait éliminé tout ça de son assiette. Elle avait peur d'engraisser. Malgré les avertissements répétés de ses proches, elle s'est entêtée jusqu'à son dernier moment de lucidité à refuser de mettre dans sa bouche des aliments gras. Je me dis que si seulement elle avait su qu'aujourd'hui, plusieurs médecins et experts en santé utilisent le régime faible en glucides et riche en gras pour prévenir et parfois même renverser l'Alzheimer et toute autre forme de maladie neurodégénérative, peut-être que son sort aurait été différent. Est-ce qu'il s'agit d'une mode qui va passer ou d'un phénomène réel qui est là pour rester? Pour en discuter et démystifier tout ça, j'ai le bonheur de m'entretenir avec Jean-Yves Dionne. Jean-Yves Dionne a prêté son corps à la science en expérimentant lui-même le mode de vie faible en glucides et riche en gras. Monsieur Dionne est un pharmacien, un scientifique qui jouit d'une grande crédibilité au Québec. Fort de sa réputation d'intégrité et d'indépendance, il est reconnu par les professionnels de la santé comme l'expert en produits de santé naturelle. En plus de sa longue expérience en pharmacie, Jean-Yves travaille comme conférencier, formateur et conseiller scientifique en produits de santé naturelle pour plusieurs groupes de professionnels de la santé. Il est le lauréat 2011 du prix pharmacien de cœur et d'action dans la catégorie santé et société. En 2003, il a reçu le prix Aventis Pharma pour contribution exceptionnelle à l'enseignement pour le cours Phytothérapie et produits de santé naturelle qu'il a enseigné à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Co-auteur de Herbs Everyday's Reference for Health Professionals et auteur de Bon stress, bad stress et SOS os, des os solides à tout âge, Jean-Yves a rédigé plusieurs formations continues, entre autres pour l'actualité pharmaceutique et Drugstore Canada. Collaborateur de la première heure pour Passeport Santé, il contribue et agit comme réviseur pour plusieurs magazines, tant scientifiques que de vulgarisation. Et je dois vous dire que l'entretien avec Jean-Yves Dionne a été si stimulant que j'ai eu envie d'essayer le régime faible en glucides et élevé en gras pour quelque temps. Il est encore trop tôt pour que je me prononce. D'une part, ça ne fait pas assez longtemps, et d'autre part, je métabolise souvent mal les gras. Alors, je fais des essais et des erreurs jusqu'à ce que je trouve une formule qui puisse me contenir. Et oui, j'en ai parlé à mon médecin avant de commencer. Bonjour Jean-Yves, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Eugénie, ça me fait grand plaisir d'être ici.
Avec vous, j'ai un grand projet, c'est de démystifier le cétogène. On en entend beaucoup parler depuis plusieurs années. Il y a beaucoup d'informations, certaines contradictoires, d'autres qui vont un peu contre ce qu'on croyait savoir. Alors, pouvez-vous préciser de quelle version du cétogène on va parler aujourd'hui?
J'aime ça, quelle version? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de versions. C'est pas monolithique, c'est pas une religion, c'est pas, il y a rien de péché, il y a juste une façon d'aborder la nutrition, l'alimentation en fonction de un critère de base. Oubliez tout le reste, on part avec un. On en mettra d'autres après, mais on commence avec un. La quantité de glucides qu'on mange dans une journée. Un glucide, c'est quoi? Mettons les bases. Un glucide, c'est tout le monde va dire, ben c'est du sucre. Oui, c'est du sucre, mais c'est aussi de l'amidon. C'est aussi des féculents. Alors, c'est pas juste, ah, moi je mange pas de sucre. Non. Combien de pâtes, pain, patates vous mangez? Combien de pâtisseries vous mangez? Combien de fruits vous mangez? Tout ce qui contient des glucides peut devenir problématique. Pourquoi? Puis c'est toute la logique qui est là. Puis pourquoi il y a un engouement tellement important, c'est que depuis les années 50, on se fait taper sur la tête en disant « les gras, c'est donc pas bon, ça cause la maladie cardiaque ». En passant, ça n'a jamais été prouvé. C'est une hypothèse, mais une hypothèse qu'on prend comme un fait qu'on va prouver, entre guillemets, avec des études d'enquête qui sont basées sur une chose qu'on appelle les questionnaires de fréquence alimentaire. Entre vous et moi, un questionnaire, c'est pas bien précis, là. Toujours est-il qu'on se fait dire que l'alimentation, c'est d'abord des grains, il faut manger 5 à 10 portions de fruits et légumes. Remarquez que dans le guide alimentaire des années 40, c'était manger des légumes à tous les jours, puis des fruits une fois de temps en temps. On a comme changé d'histoire. On nous a fait peur avec le cholestérol quand il n'y a aucun rapport entre le cholestérol que je mange, celui que j'ai dans mon sang, puisque c'est mon foie qui le fabrique. Bon, il y a plein d'affaires comme ça qui ont été véhiculées comme étant des vérités absolues. Et en réalité, en science, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des concepts, il y a des preuves plus ou moins solides, et il y a une évolution de la pensée. Puis un chercheur, c'est quelqu'un qui pose des questions. Hein? Alors, quand on part de ça, on dit, les vérités absolues, comme il faut absolument manger 5 à 10 portions de fruits et légumes, c'est basé sur du vent. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis que la preuve n'est pas là. Tout ça, depuis les années 50, nous amène au guide alimentaire canadien et américain en 77, et tout ça nous amène à une chose qui est extraordinaire dans notre société, l'épidémie de diabète et d'obésité. Ou, si vous voulez vous amuser, regardez les photos de famille des années, on va être gentil, 50, 60, même début 70. Tout le monde est mince.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que depuis qu'on mange plus de gras, on est gros.
Exactement. Merci. On peut pas mieux le résumer. On a oublié quelque part. Parce que à partir de ce moment-là, où aux années 70, commence le guide alimentaire qui devient la norme, où il faut manger d'abord des grains puis que le gras, c'est pas bon, ben là, on se met à grossir toute la gang. Le petit tour de taille devient la norme au lieu d'être l'exception. L'obésité est de plus en plus fréquente, entre autres chez les enfants. Puis là, on continue. Il y a du sucre partout. Alors, tout le mouvement de l'approche de restriction des glucides qu'on a affublé du mot cétogène, pour vous expliquer pourquoi c'est pas tout à fait correct. Le but de ça, c'est de renverser la vapeur, parce que pourquoi on devient gros? Pourquoi on devient diabétique? Pourquoi les maladies cardiaques qui sont supposées être enrayées par ce régime-là n'ont pas baissé? Le seul temps où ils ont baissé, c'est quand on a mis des interdictions sur le tabac. C'est la seule place où on a vu une réduction de la maladie cardiaque en termes statistiques. L'augmentation de l'activité physique aide. Remarquez que ça aide pas à maigrir. Autre chapitre dont on parlera plus tard. C'est une autre histoire. Mais tout ça, c'est dû à une chose, c'est que mon corps, quand il reçoit des glucides, quels qu'ils soient, il va se mettre à sécréter une hormone que ma glande, le pancréas, va sécréter, qui s'appelle l'insuline. Et le but de ça, c'est de faire rentrer au plus sacrant mon sucre dans mes cellules, parce que deux problèmes. Un, j'en ai besoin pour faire de l'énergie. Deux, c'est toxique, cette substance-là. On en a tous dans le sang, mais si ça dépasse un certain niveau, mon corps est très mal à l'aise avec ça, ça crée de l'inflammation, il va se mettre à l'éliminer par le rein, il veut pas ça.
Alors, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline.
C'est là où on s'en va. Alors, si je fais ça une fois par jour, il n'y en a pas de problème. Mais si je fais ça trois fois par jour, ou si je fais ça comme on s'est fait dire, de manger six fois par jour avec des collations tout le temps, ben là, mon insuline reste dans le plafond. Et là, mon corps commence à faire ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline, exactement ce que vous venez de dire, où là, les cellules font « Attends une minute, j'en ai assez, là, j'en veux plus. J'ai atteint mon quota, j'en veux plus. » Donc, mes récepteurs à l'insuline changent. Je fais de la résistance. Je suis rendu sourd. Qu'est-ce que mon pancréas fait? Il en sécrète plus. Et là, les cellules sont prises dans une espèce de dilemme où le sucre qui a rentré les force à grossir, à se développer, à se diviser. Mes cellules grasses commencent à faire du gras. Puis en même temps, la résistance, mon changement de cellules, fait qu'il y en a moins qui rentrent. Puis là, ils tombent dans un état où ils sont affamés. Et c'est là où cette espèce de guerre-là entre j'en ai trop, j'en ai pas assez, j'en ai trop, j'en veux plus, j'en ai pas assez, parce que l'insuline fait plus son travail correctement, m'amène à plus d'embonpoint. Là, le sucre m'a monté, ça s'appelle du diabète, où je fais assez d'insuline, mes cellules graisses se mettent à grossir, c'est l'embonpoint, c'est l'obésité, c'est d'autres choses. Alors, tout ça, c'est ce qu'on constate dans notre société. Donc, on est dans une espèce d'immense étude non contrôlée, avec des opinions qui sont devenues des faits, et une société qui est de plus en plus malade. Et c'est contre ça que le mouvement mondial de restriction des glucides a pris sa source. Puis c'est pas une lubie, parce qu'on se fait dire par les tenants qu'on va appeler le guide alimentaire, même s'il a changé, mais cette philosophie-là, les tenants de ça nous bombardent en disant « c'est dangereux, il y a des effets secondaires ». J'ai même discuté avec une professionnelle de la nutrition qui me dit « 25 effets secondaires ». Oui, OK, il y en a combien de manger trop de légumes, là? Pensez à quelqu'un qui a l'intestin irritable, pensez à quelqu'un qui a un cancer de l'intestin, pensez à tout ce monde-là, là, excusez, quelqu'un qui fait des calculs au rein, des pierres au rein. Ben, le lien avec les phosphates, les phytates, les oxalates qui sont dans l'alimentation végétale, c'est pas clair. C'est jamais coupé carré. Mais la propension de manger trop de glucides, c'est devenu la norme. Et c'est pour ça. Hein, c'est ça. L'Américain moyen, on va s'inclure là-dedans. Là. Pensons pas à la norme obèse américaine, mais mettons le Québécois moyen mange entre 300 et 600 grammes de glucides. Et si on veut s'amuser, les gens qui nous écoutent, faites quelque chose. Prenez la peine, avec un papier et un crayon, ou ben non, si vous êtes techno avec une appli comme MyFitnessPal, Car Manager, il y en a toute une collection, mais un papier crayon fait la job. Regardez ce que vous mangez. Évaluez la quantité, puis chacun des aliments, prenez l'étiquette nutritionnelle si vous l'avez, sinon Google avec glucides ou Google avec contenu nutritionnel, vous allez trouver combien il y a de glucides dans votre assiette. Faites l'évaluation dans votre journée. Honnêtement, là, toutes les fois que vous mangez.
Puis, c'est un bon exercice à faire.
Oui, c'est un exercice à faire. Alors, une fois qu'on a fait l'exercice, on s'aperçoit à tableau. C'est vrai que le Québécois moyen, il mange entre 300 et 600 grammes de glucides. Puis à chaque fois, tenez-vous bien que je dépasse 20 grammes dans un repas, j'ai un spike d'insuline.
Oh, fait que ça en fait souvent, okay. Des spikes d'insuline.
Alors, pour éviter la résistance à l'insuline, je devrais baisser ça en bas de 100 grammes.
Par jour.
Par jour. Donc, okay. À peu près 30 grammes par repas. Si vous avez un problème d'embonpoint ou de résistance à l'insuline, on devrait pas dépasser 20 grammes par repas, puis on devrait même porter attention au type de glucides. Mais là, c'est un autre sujet. On parle de la charge glycémique ou de l'index glycémique, mais juste la quantité. Puis, quand on parle de cétogène, on parle de baisser ça en bas de 30 à 20 grammes par jour. Hey, un autre monde,
beaucoup.
Là.
Yeah, alors, c'est pas beaucoup.
C'est ça. Alors, on mange quoi? Si mon corps n'a plus le carburant que représentent les glucides, je peux pas manger trop de protéines parce que mon corps va me le dire à un moment donné, il est pas heureux avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin de l'autre carburant que sont les gras. Les gras saturés, qu'on s'est fait vilipender, c'est dangereux, ça donne la maladie cardiaque. Je répète, c'est une hypothèse qui n'a jamais été prouvée. C'est vrai que les gras saturés augmentent votre cholestérol LDL, le transporteur, mais pas celui qui cause la plaque, celui qui ressemble à une grosse boule de Watt qui flotte. qu'on appelle la peau A. On s'en contrefout, c'est un facteur de protection. Mais là, le monde médical au sens large, donc ma corporation inclut les pharmaciens, on considère le cholestérol comme dangereux. Ça va changer. Donnez-nous 5 ans, là, puis ça va changer. La science, ça a quelque chose qui évolue.
Mais il y a des... on a été brainwashés, c'est ben sûr, oui. Ça dépasse ces croyances-là. Tu mets du beurre sur...
Oui, puis tu te sens coupable.
Voilà.
Alors, et ceci étant dit, quand on constate que le gras... les glucides m'amènent à la résistance à l'insuline, et le déclencheur des maladies cardiaques, incluant l'hypertension, c'est le déclencheur de mes dyslipidémies, mon cholestérol mauvais, le mauvais LDL, le ApoB, c'est la résistance à l'insuline qui le mène. Les triglycérides, froum! Ça, c'est important. La baisse du bon cholestérol, le HDL, c'est la résistance à l'insuline. Alors, je peux continuer de même pendant m'amuser pendant longtemps.
Là, pour me démélanger, on parle de que ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est l'importance. Ben, on mange trop de glucides puis il faut les couper, mais on n'a pas encore parlé de cétose. Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser les cétoses plutôt que les glucides pour faire fonctionner notre système?
Bon, la réponse est non. OK? C'est physiologique, c'est pas pathologique, c'est pas une maladie, c'est la cétose nutritionnelle. Bon, commençons par définir c'est quoi.
Ouais.
Alors, c'est que quand mon corps, quand l'insuline baisse, puis se tombe à son niveau qu'on appelle basal, donc minimum normal, mes glucides baissent, j'en ai pas assez pour faire de l'énergie. Mon corps se tourne vers soit les gras que je mange, soit les gras que j'ai en réserve si j'ai de l'embonpoint, et transforme ça de deux façons. La première, au niveau du foie, les transforme dans une toute petite molécule qu'on appelle une cétone. Moi, je l'appelle Bob parce que c'est bêta-hydroxybutyrate, B-O-B.
O-B.
Moi, je l'appelle Bob. Alors, Bob, c'est une cétone. Il y en a 3. Mon corps fait des cétones. C'est pour ça qu'on parle de cétogène. Je génère des cétones. Ce qui est fascinant avec ces molécules-là, c'est qu'elles arrivent dans toutes mes cellules de mon corps, prennent la place du glucose, sont plus efficaces à faire de l'énergie, et ont des effets intéressants. Diminuent la production de radicaux libres, donc qui ont un effet antioxydant, sans être un antioxydant comme tel. Je fais moins de radicaux libres. Effet neuroprotecteur. C'est pour ça que l'acétose est de plus en plus recommandée et étudiée pour les maladies neurologiques, notamment l'Alzheimer. Moi, c'est ma motivation à moi. Les premières études cliniques sur la diète cétogène, qui n'est pas la diète le fun que moi je fais, là. C'est la diète super rigide, c'est dans l'épilepsie réfractaire chez les enfants. Ça s'enseigne à Sainte-Justine.
Ça, c'est 20 grammes ou moins par jour.
Exactement. Là. Puis là, il y a des ratios très précis entre la quantité de gras, la quantité de protéines. C'est vraiment hyper scientifique et précis.
C'est dur à contrôler et à mesurer tout ça.
Exact. Tandis que l'acétose dont je parle, c'est le fun. Je me casse pas les pieds, OK?
Bon, j'écoute.
Alors, mais finissons avec l'histoire des cétones. La plupart des athlètes de haute endurance, tu sais, les cinglés qui courent des 100 km, là, où ils font des Ironman, ce qui est pas humain, mais ils le font, correct?
Yeah.
Sont presque tous rendus dans le régime cétogène. Pourquoi? Parce que, prenons l'analogie, nous sommes un camion-citerne. Si je carbure aux glucides, ce qu'on s'est fait dire, de prendre des petites barres en courant, puis des gels de glucose, puis tout.
Puis ben, des gros
pâtes avant de partir.
Ouais.
Là, j'ai accès à la tank à gaz, mon glycogène, que je vais brûler en termes de minutes, sérieusement. 30 minutes, une heure, c'est fini. Je l'ai brûlé. Alors, donc, faut que je le remette. Ou alors, je pars sur l'autre carburant, qui sont les cétones, et là, j'ai pas rien que la tank à gaz, j'ai toute la citerne. 7000 calories par kilo. J'arrête pas, là. Et on s'aperçoit que ces gens-là se mettent à courir. Alors, pourvu qu'ils remplacent l'eau et les électrolytes, donc le sel, le potassium, le sodium, en courant, en faisant l'exercice longue endurance, ils n'ont pas besoin de manger. Ils ont des réserves pour toffer, là. Puis c'est ça qu'on constate. Puis ça, dans la vie de tous les jours, parce que moi, je suis loin d'être un athlète, je suis très en forme, mais je suis pas un athlète, ben je le vois dans ma vie de tous les jours. Moi, j'étais quelqu'un qui se levait la nuit parce qu'il avait faim. J'ai fait de l'hypoglycémie grave. Je me réveille le matin parce que j'ai faim. Et là, tout ça, c'est parti. Je suis pas quelqu'un qui est allé vers le jeûne intermittent. C'est un autre dossier, ça, pour en jaser. Mais j'ai plus aussi faim. Je peux repousser un repas sans virer cinglé et arracher la tête de quelqu'un.
Ça me parle tellement ce que vous dites, parce que moi aussi, j'étais du genre à me lever la nuit parce que j'avais faim, puis le matin, c'est go, 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 on se lève, on se dépêche à manger. Et là, c'est plus comme ça.
Mais non, c'est ça. Alors, quand on remet ça en perspective, est-ce que j'ai besoin d'être strict à 20 grammes par jour? Si vous êtes diabétique de type 2, je vous encourage fortement à avoir un coach, à apprendre comment le faire, puis faites-le. Parce que vous allez voir votre besoin en médicaments baisser, puis renverser le diabète rapidement. Pas à 100% des cas, c'est pas vrai, ça peut être, il y a des cas réfractaires qui restent avec un peu de médicaments. Mais entre prendre 3-4 médicaments et en prendre un seul, hein, bon. Mais il y a bien des gens qui, au bout de quelques semaines, finissent les médicaments. Mm-hmm. Mais ça, ça prend de l'aide. Par contre, vous voulez simplement arrêter d'avoir faim tout le temps, perdre le petit surplus qu'on gagne une fois par année, tous les ans, quelques kilos, augmenter votre énergie vitale, augmenter votre concentration. Parce que oui, le cerveau a besoin de glucides, de glucose, mais en même temps, adore les cétones. Ah, tiens-toi.
Alors, c'est-tu un ou l'autre ou ça peut être l'un et l'autre?
C'est que c'est l'un et l'autre en même temps, même si je mange zéro glucide. Parce que l'affaire qu'on sait depuis, tenez-vous bien, le 19e siècle, mais qu'on a oublié, c'est que le foie fait des glucides. La gluconéogenèse. Mon foie fabrique du nouveau glucose. Hein? Générer du nouveau glucose, gluconéogenèse. Ça, c'est un phénomène que tout le monde a. Et ça, même si je mange rien, je jeûne, je ne fais pas d'hypoglycémie. Je pourrais faire de l'hypoglycémie réactionnelle au début si j'étais en résistance à l'insuline. Mais ça, c'est les premières heures. À un moment donné, oups, ça se tasse. Mais n'importe qui n'est pas en résistance à l'insuline commence un jeûne, puis au bout de 36 heures, fait, hey, j'ai plus d'énergie qu'avant. Parce que le foie continue à faire sa glycémie normale, son glucose dans le sang normal, mon cerveau va avoir ce dont il a besoin, mais comme l'insuline baisse à son minimum, je me mets à faire des cétones en parallèle, et là, mon cerveau s'allume, j'ai de l'énergie physique, mentale, c'est génial. Alors, ça, c'est si je mange pas. Si je mange 20 grammes de glucides avec une alimentation bien faite, là, j'ai les mêmes bénéfices. Mais à partir de quand je vais avoir les bénéfices sans nécessairement tomber en cétose, c'est quelque part entre 100 et 70 grammes. Et là, j'ai cette capacité métabolique de flexibilité, passer de l'un à l'autre.
OK. Si on parlait, mettons, juste en tranches de pain, quelque chose que tout le monde peut visualiser, entre 70 et 100 grammes par jour, ça fait combien de tranches de pain, de patates?
Je vais juste vérifier ce que je dis, là.
Juste pour se donner un ordre de grandeur.
Si on parle de quantité par 100 grammes, okay? Du pain, c'est quelque chose comme 46 grammes par 100 grammes. Une tranche de pain peut facilement faire 20 grammes, dépendant du pain dont je parle.
OK, OK.
Et tantôt, j'ai abordé vite la notion d'index glycémique, j'ai passé par-dessus. Ça, c'est l'autre aspect. Tous les glucides ne sont pas égaux.
Et toutes les calories ne sont pas égales.
Bon, ça, ce mot-là, on devrait l'enlever de notre discours. Parce qu'une calorie, c'est une invention.
Ça veut rien dire.
Ça veut non seulement rien dire, ça ne prend pas en considération votre métabolisme, votre absorption, votre microbiote, votre niveau d'activité physique. Ouais, mais nous ne sommes pas des éprouvettes. Hein? Si je prends quelque chose, je le mets dans une éprouvette, je le brûle, ça va dégager de la chaleur, ça va dégager des calories. Et de ça, on a calculé le nombre de calories. Tu sais, 9 calories par gramme pour les gras, 4 calories par gramme pour les protéines puis les glucides. C'est une grosse farce parce que ça ne tient pas compte des hormones. Alors, les glucides font faire une pointe d'insuline qui me rend conservateur. Je veux les conserver, je les brûlerai pas. Les lipides n'affectent pas du tout l'insuline. Les hormones sont pas les mêmes. À titre d'exemple, quelqu'un qui mange céto, là, qui mange 20 grammes de glucides puis beaucoup de gras, il y a moins de gras dans le sang que quelqu'un qui mange glucidique comme notre concitoyen.
OK.
Voyez-vous les paradoxes, là?
Fait que oui, il y en a plusieurs.
Le mot glucide, là, sacrément sur poubelle. Pas glucide, mais calories. On les compte pas. On mange à sa faim. Autre point, plus je mange gras, puis j'ai pas besoin de rajouter du bacon partout, c'est pas vrai, là. Je vais manger des aliments gras. Ça peut être des fromages, ça peut être des poissons, ça peut être des noix, ça peut être des viandes qu'on va préférer grasses plutôt que maigres, ça va être des avocats.
Mais juste ça, ce que vous venez de dire, des viandes qu'on va préférer grasses que maigres.
Ben oui!
C'est comme...
Oui, mais regarde, si on veut s'amuser, là, un steak va être beaucoup plus goûteux s'il est persillé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des fibres de gras dedans.
Je suis déjà convaincue.
Vous cuisinez une coupe de viande qui a du gras dedans, elle va être beaucoup plus tendre que votre filet mignon qui est super maigre. puis elle va vous coûter moins cher. Fait que, tu sais, à un moment donné, on a comme shifté vers des... C'est sûr qu'un filet mignon rouge, c'est tendre. Mais dès que vous le cuisez, là, bang!
Ça devient dur.
Alors, c'est...
Surtout si c'est à haute température.
Exact. Bon, alors, c'est tout ça là, qu'on regarde. Alors, l'index glycémique, c'est quoi? C'est la capacité de ces mêmes glucides-là de monter mon sucre dans le sang. Certains sont très efficaces. Les farines, les féculents, la patate, c'est comme du glucose pur. Pow! Le sucre ajouté, évidemment. Par contre, certains aliments dits glucidiques sont beaucoup moins efficaces. Je pense aux légumes racines crues, carottes, panais, céleri rave, navets. Vous pouvez en manger une trolley, même si c'est 7 grammes par 100 grammes, pour la bonne et simple raison que votre corps travaille super fort pour le rentrer.
Et qu'il n'y aura pas
d'insuline. Exact. Mais votre tranche de pain blanc le matin, là, ou de pain n'importe quoi, parce que de toute façon, entre vous et moi, c'est du pain, là. Si je rajoute un peu de fibres dedans, j'ai surtout des glucides. Regardez n'importe quelle étiquette nutritionnelle, d'autant plus que nos industriels qui nous vendent des affaires en plastique, là, sont pas assez maîtres dans l'art de nous vendre quelque chose qu'on n'a pas. Alors, par exemple, un pain de blé entier, tu regardes, ça commence par farine blanche blanchie. Curieux.
Mais est-ce bon. Que c'est vrai? Est-ce que cette vérité-là sur le pain est aussi vraie si on parle de pain ou de pâte sans gluten?
Absolument.
Oui. Okay.
Parce que, très bonne question. Tu sais, moi, avant de m'intéresser au céto, j'étais, entre guillemets, je suis toujours sans gluten, mais 20 ans avant qu'on en parle dans les médias puis que ça devienne, tu sais, on est pour, on est contre, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Mm-hmm. Pour la bonne et simple raison que quand je mange du gluten, moi, je suis pas bien. OK, j'ai des problèmes respiratoires, des problèmes inflammatoires. Quand
ça bloque dans l'estomac.
J'ai même pas de problème digestif. C'est pas là que ça marche. Mon problème, c'est en haut, dans la tête, les sinus. Si je mange du pain 3 fois, je me tape une sinusite. C'est aussi bête que ça. Puis j'ai des problèmes articulaires. Bon, j'en mange pas, je suis bien. Alors moi, j'ai fait ça dans les années 90, 20 ans avant qu'on en parle. Là, t'sais? Mais ceci étant, les produits sans gluten... Les aliments sans gluten non transformés, donc tout ce qui ne contient pas de grains, go. Mais les produits sans gluten, qui sont des produits transformés, regardez les étiquettes, s'il vous plaît.
Hey, il y a des listes, là, de
merci beaucoup. Exactement. Alors ça, c'est la base. Vous regardez un pain sans gluten, puis le premier, c'est de l'amidon de patate. Ben, c'est de l'amidon pareil. Tu sais, il n'y a pas de gluten dedans. Mais si on veut être cynique un petit peu, le problème du blé, il n'est pas nécessairement dans le gluten. Il peut être dans ce qu'on appelle les lectines. Dans le germe de blé puis dans le son de blé, il y a une molécule, une toute petite protéine qu'on appelle WGA. Mm-hmm. Wheat germ agglutinine. Alors, cette protéine-là, pour les gens sensibles, va agglutiner votre globule rouge. Vous avez donc une réaction inflammatoire à cette affaire-là. Pas tout le monde, là. Gluten, WGA. Puis le troisième, c'est le fameux Roundup.
Ben oui, hein.
Vous savez que historiquement, Roundup, c'était un nettoyeur, puis à un moment donné, c'est devenu un pesticide, puis un exfoliant, puis on l'ajoutait dans les champs avant de semer. On a développé des OGM pour résister à ça, mais jusque-là, c'est une histoire d'horreur. Attendez le prochain chapitre. Ce qu'on fait maintenant sur le blé, certaines formes de maïs et le soya OGM, avant la récolte, on arrose le champ littéralement de Roundup. Pourquoi? Pour faire sécher les grains et les récolter plus vite à l'heure où ça nous tente plutôt que l'heure où la saison va nous dire de le faire. Fait qu'on se ramasse avec des quantités de Roundup phénoménales dans des aliments bénins qui devraient être bons pour la santé, entre guillemets, le pain. Alors, à un moment donné, puis là, on trouve de plus en plus des tests ou des publications scientifiques qui trouvent du Roundup dans le sang de cordon ombilical de bébé, dans le lait maternel. C'est comme, ben oui, mais... C'est rendu une horreur, là. Et ça...
Jean-Yves, c'est vraiment super intéressant. Ça me fascine, mais on s'éloigne de nos
Je dérape un peu.
Alors, on c'est pas grave, on aime ça. On aime ça. Donc, je reviens à votre version, à vous, du cétogène adapté pour monsieur et madame tout le monde qui n'a pas des gros problèmes de santé. Ça ressemble à quoi, dans une journée, ce que vous mangez?
Bon. Moi, personnellement, je fais... je vais vous appeler ça du céto strict avec des excès.
Au sens
où je suis probablement, si je recalculais quelque part autour de 50 grammes par jour, puis je me permets à la fin de semaine de prendre une bière parce que je suis un fan de bière microbrasserie et certaines bières ont des chiffres catastrophiques.
OK. Bon,
ceci étant...
C'est assumé.
Oui. Puis mon but, je l'ai atteint. C'est-à-dire que moi, je suis parti de 195 puis là, je flirte autour de 180. Okay? Mon but n'était pas le poids. Mon but, c'était l'hypoglycémie. Mon but, c'est l'hypertension. Mon but, c'est la maladie neurologique, l'Alzheimer, parce que la moitié de ma famille en haut, à côté de ma mère, sont tous morts de ça. Ça me tente pas. Puis l'Alzheimer, c'est le diabète de type 3. C'est pas la seule cause, mais c'est la principale. Donc, moi, je m'en vais par là. Alors, pour dire ce que je mange, moi, je m'assure que chacun des repas, à part les exceptions qui sont, comme on a dit, assumées, c'est faible en glucides. Alors, par exemple, mon déjeuner usuel, c'est un pain maison fait avec de la farine de coco qui doit contenir gros max 3, peut-être 4 grammes de glucides par petit pain. Ce que je mets dessus, c'est des croûtons maison, donc du porc, avec du gras de canard. Donc, zéro glucides, riche en gras. Puis pour m'amuser, comme je suis pas très produit laitier, sauf les produits de chèvre, ben je mets une cuillère à table à peu près ou deux de huile MCT. L'huile MCT, c'est quoi? Triglycéride à chaîne moyenne ou medium chain triglyceride. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? C'est en fait de l'huile de coco qu'on aura fractionnée. Puis on va faire un peu de chimie deux minutes, vous allez comprendre où je m'en vais. Un gras végétal, qui soit de n'importe quelle source, il y a habituellement 18 carbones de là. C'est comme un petit chapelet. Alors, l'huile d'olive, l'huile de tout ce que vous voudrez. Je vais les diviser en saturé, polyinsaturé, un autre affaire. Mais 18 carbones de là. Dans le coco et dans l'huile de palme, il y a des chaînes plus courtes. Alors, il y a des 16, des 12, des 10 puis des 8 de long. 8 et 10, c'est encore des gras, mais on les appelle à chaîne moyenne.
OK.
Et ça, on va aller chercher ça dans l'huile de coco. C'est pas solide comme l'huile de coco, c'est liquide. Et ça permet au corps de faire quoi? C'est les MCT ou les TCM, mais bon, TCM a une autre signification dans le jargon. Alors, on utilise MCT. Mais ces huiles-là passent dans le système et sont transformées en cétone beaucoup plus efficacement et rapidement que toutes les autres gras. C'est pour ça que j'en rajoute le matin. Moi, je veux augmenter mes cétones parce que pour une raison de forme physique, je suis un type qui métabolise très bien les gras au niveau cellulaire et fait peu de cétone. Parce qu'il y a différents types métaboliques. Les gens très actifs physiquement qui ont une bonne masse musculaire, souvent, ils sont déçus quand ils mesurent leur cétone puis ils montent pas. Je suis un de ceux-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps est plus efficace à brûler le gras directement dans mes cellules musculaires, puis les cétones se font un peu marginales. Ma conjointe, à l'opposé, c'est l'inverse. Elle est super efficace à faire des cétones, elle fait 2-3 fois mon niveau sanguin. On est juste différents. Alors moi, pour augmenter les cétones, parce que ma motivation, je le répète, ça reste neurologique. Alors mes cétones, je veux les monter. Je rajoute du MCT le matin. Pas une quantité industrielle, parce que si j'en prends trop, tu sais, plus, c'est pas toujours mieux. Parce que ces gras-là, ils sont particuliers. Mon intestin, il fait « Attends une minute, donne-moi-en pas trop, j'aime pas ça. » Si j'en prends trop, mon intestin, il fait de la diarrhée. Alors, je prends une dose que je tolère, qui me donne pas de problème. Il y a des gens qui vont en prendre un petit peu plus. Puis, pouf, c'est l'effet secondaire des gens qui font cétostrict, puis qui se tirent dans l'huile de coco en quantité industrielle, puis se ramassent en diarrhée urgent. Et mauvaise idée. Il reste le gros bon sens dans tout, là. Donc, si on parle de comment faire pour tout le monde, commencez par regarder comment vous mangez de glucides. Deux, identifier les produits riches en glucides. Les 4 P de nos grands-mères. OK?
Pain, pâte, patate, pâtisserie.
OK? Alors, pain, pâte, patate, pâtisserie et aliments sucrés. Incluant votre jus de fruits le matin. Allez regarder l'étiquette. Un verre de jus de fruits, 250 ml, 8 onces, un petit verre, c'est 38 grammes de glucides.
Ailleurs, fait qu'on a déjà fait sauter la baraque si on est à la version stricte.
Si on est dans la version stricte de 1, votre banane, c'est 20 grammes par 100 grammes. Puis une banane, c'est facilement 200 grammes. C'est 40 grammes qui vient de rentrer. Pow! Vous mettez ça sur un gruau. Instant, il n'y a plus de fibres. Tu sais, il faut vraiment prendre le temps d'observer ce qu'on mange et de retirer de la réflexion. On m'a dit que c'était bien.
Oui, puis voir ce que ça nous fait à nous.
Exactement. Parce que il y a bien des gens qui viennent me voir en clinique et moi, je mange bien. Puis moi, je demande toujours un journal alimentaire de 7 jours. Puis quand je dis un journal alimentaire, je veux savoir ce que vous avez mangé au jour 1 au déjeuner. Pas « je mange habituellement ça ». Pourquoi je suis têteux comme ça? Parce que ça, ça ne me sert pas à vous juger ce que vous mangez, ça me sert à enseigner. Puis le calcul qu'on fait là, j'ai mangé ça, ça, ça. Vous savais-tu qu'ils sont où tes protéines le matin? Reprenons mon exemple. Gruau, banane, jus d'orange, café. Ou toast, merci. Toast, confiture, jus d'orange, café. Protéines sont où? Lipides sont où? Et c'est ça l'enseignement. Et là, vous pouvez faire cette démarche-là tout seul en disant, OK, Ben là, finalement, je mange bien trop de glucides. Puis, elle, il m'a dit quelque chose comme pas plus que 20 grammes par repas. Allons-y avec ça comme règle du pouce. Et vous allez voir que c'est pas difficile et ce n'est pas contraignant. Et oui, vous pouvez manger des fruits. Il n'y a rien d'interdit. Il y a juste un jugement qui dit, attends une minute, là, mon bagel, à lui tout seul, me donne une quarantaine de grammes. Là. Oups, je pense que j'en mangerai pas, manger d'autres choses. Je veux manger des fruits. Bon, OK, on est en saison. Là. Mangez-en des fruits, pas 12. T'sais?
Des bleuets, c'est bon, plein d'antioxydants.
Oui, les bleuets, les framboises, les mûres. Les bleuets, c'est 12 grammes par 100 grammes. Mais vous pouvez manger une pomme, par exemple. Vous pouvez manger d'autres choses. Alors, c'est ça qui est permis, mais avec la lorgnette de dire, OK, si c'est riche en glucides, je vais donc faire attention, puis privilégier d'abord les protéines et les lipides dans des aliments complets. Je ne parle pas de suppléments, de poupoudres, de vraiment de la vraie bouffe, pas transformée, celle qu'on transforme dans notre cuisine. Là.
OK. Là, vous avez parlé de votre petit déjeuner, votre lunch, puis votre souper, ça ressemble
bon,
à quoi?
Le lunch, je vais vous parler des soupers avant de parler du lunch, parce que comme je travaille de chez moi, j'ai tendance à manger des restants. Par exemple, hier, on a fait un rôti de porc cuit très, très longtemps pour en faire un porc effiloché dans un bouillon avec des fines herbes. Et donc, j'ai quelque chose de très soutenant avec suffisamment de gras. Et je rajoute une à deux portions de légumes. Hier, c'était bok choy. J'ai des concombres en entrée. Puis, j'ai des betteraves.
OK.
OK. Donc, une assiette, c'est d'abord une source de protéines qui me plaît. Ensuite, je rajoute des accompagnements, suffisamment de légumes, idéalement colorés, foncés. Parce que plus ils sont foncés, plus j'ai d'antioxydants, de nutrition, de ce que je veux. Alors, pour citer ma belle-mère, une assiette de poisson, sauce blanche, chou-fleur, c'est plate. Chou-fleur, c'est très bien, mais mettez-vous des couleurs. T'sais, amusez-vous à faire ça. Fait que ça, c'est un repas exemplaire. Ça pourrait être un...
Votre gras?
Ben, dans la préparation de mon porc, il y a en masse de gras parce qu'on a rajouté du gras de bacon. Mais ça pourrait être un saumon.
OK.
Ça pourrait être une... Puis dans ma préparation de bok choy, j'ai mis du beurre à l'ail. Du beurre puis une okay. Gousse d'ail. Pas les betteraves, c'est moins intéressant. Mais rajouter assez de gras dans l'assiette pour le voir. Puis ça, c'est un détail. Souvent, on va dire un poids. Ah, 30 grammes. Ouais, OK, correct. Mais... vous pouvez aussi travailler à l'instinct. Puis, la phrase, c'est assez de gras pour plus avoir faim. Parce que si vous avez faim avant le prochain repas, c'est qu'il manquait de gras quelque part.
Donc, c'est le gras qui coupe la faim, c'est pas la protéine.
Les deux. Mais celui sur lequel on a plus de jus, c'est le gras. Puis surtout si je fais un effort de choisir des sources de protéines qui sont plus grasses ou des façons de cuisiner où j'incorpore plus de gras, mon niveau d'énergie va augmenter, mais ma satiété va être plus importante. Je vais être plus satisfait, je vais avoir moins faim.
Il y a des gens dont je fais partie, et je suis en train d'expérimenter là-dessus, qui métabolisent moins bien les gras. Alors, j'explore plein d'avenues. Mmh. Bon, est-ce que je métabolise mieux les gras quand j'ai moins de glucides? Est-ce que ça dépend de l'heure de la journée? J'aimerais savoir.
Ah oui, merci. Vous venez de toucher à deux points, là. Le premier point, c'est est-ce que je métabolise bien ou mal les gras si j'ai trop de glucides? La réponse, c'est votre foie va travailler d'autant plus fort s'il y a beaucoup des deux. La fameuse crise de foie, là, elle arrive toujours quand il y a les deux en trop grande quantité. Alors, si je décide d'être strict du jour au lendemain, mon corps, comme dirait une copine, il vire de sourd, il a besoin d'adapter, ça prend un temps. Mais il y a deux notions là, sur la tolérance au gras. Un, si je mange trop de glucides, je suis en résistance à l'insuline, j'ai de la misère à tolérer les gras, c'est clair. Parce que mon corps n'est pas habitué. Faut donc lui donner une transition. Puis augmenter graduellement. On peut vraiment switcher, là, baisser l'un, graduellement augmenter l'autre. D'où mon petit devoir. Commencez par savoir ce que vous faites. Jugez pas. Observez. Après ça, on agira. Alors, la notion de tolérance, si vous mangez, le plus bel exemple, là, c'est le brownies au chocolat avec un crémage. Il est roche. Il est difficile pour le foie, ça n'a aucun bon sens, là, parce qu'il est à la fois gras et sucré. Ceci étant dit, quand on réduit les glucides, la tolérance au gras augmente très rapidement. C'est une question de jours. L'autre chose, c'est une question de jour, mettez deux semaines. T'sais, c'est vraiment rapide. L'autre chose, c'est que vous avez une caractéristique qui est unique. Vous êtes vous-même, vous avez une physiologie qui est à vous. Certains gras vous vont pas. Vous aimez pas ça. Prenez d'autres choses. Alors, souvent, les gens reviennent sur le foutu bacon. Moi, j'ai pas d'objection au bacon, mais c'est pas un aliment de tous les jours. Pour moi, c'est un aliment d'exception. Mais il est devenu l'icône de tout ce monde-là parce que...
Il est partout sur les livres de recettes, dans les livres de recettes.
Je le sais, parce que c'est l'exemple parfait d'une viande grasse. Le problème, c'est que quelle qualité j'ai acheté? Comment l'animal a été élevé? Comment il a été abattu? Tu sais, je m'excuse, mais j'ai beau être un grand carnivore, je m'intéresse au confort, au traitement des animaux, puis il y a des choses que je ne tolère pas. Et ça, c'est un choix. Tu sais, acheter, c'est voter, c'est vrai ici aussi, là. Alors, de privilégier les petits producteurs, ça coûte plus cher, mais au moins, j'ai une qualité. Privilégier des animaux qui ont mangé ce pour quoi ils ont évolué aussi. Tu sais, un bœuf, ça mange pas de grains, ça mange du foin. Mais bon. Fermeture de parenthèse politique.
Mais c'est tellement, ça goûte tellement pas la même chose.
Merci beaucoup.
Un bœuf de pâturage avec un bœuf élevé au grain.
Ah, exactement. Puis, sérieusement, la viande de l'animal bien élevé, abattu correctement, pas après avoir passé, 8 heures dans un troc, tu sais, d'être stressé à l'os, on mange des viandes malades. Là. Non. Peut être super bien traité jusqu'à la toute fin puis pas se rendre compte.
Puis la densité nutritive aussi, c'est...
Voilà, c'est plus satisfaisant. Le ratio des oméga-3 est plus élevé. La qualité de la viande est meilleure. Mettez-en, là. Bon. Alors, ceci étant dit, la tolérance au gras, il y a des gras que votre corps va accepter. L'huile d'olive, j'attends encore quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas capable d'en prendre. L'huile de coco, certains sont pas capables. Puis il y a une question de quantité. Je vous l'ai dit, les MCT que dans l'huile de coco, votre intestin, à un moment donné, après un certain niveau, fait « Oups, j'en veux plus, flouche les floches. »
Pas le fun. Ça, j'expérimentais avec ça. Grosse quantité, ça passe pas.
Ça passe pas.
Petite quantité dans mon smoothie, merveilleux. Et,
bingo. Alors, c'est vrai pour tout. Le beurre de qualité, cru, pas de problème. Cuit, plus difficile. Cuit au point de noircir, danger. Ça dépend des gens et des quantités. C'est là où on doit trouver ce qui nous convient. Est-ce que les noix, ça vous va? C'est la première place pour augmenter. Les produits laitiers vous vont pas? Prenez-en pas. Tout ça, c'est individuel. Mais la logique, baisser les glucides, augmenter les gras puis manger assez de protéines, ça marche pour tout le monde. Okay. Mais quel gras, ça, c'est vous qui décidez. Mais on a abordé un autre sujet, là. C'est le type de gras dans l'alimentation en présence ou non de glucides. L'autre aspect que vous avez abordé, le moment de la journée. Il y a une notion qui s'appelle la chrononutrition. J'aime pas le mot parce qu'il est associé à un trademark, là, une marque déposée en France, puis une école de pensée sur la nutrition. Mais il y a une rationnelle derrière. La rationnelle, elle est hormonale. J'explique. Le matin, votre cortisol est plus élevé, votre adrénaline est plus élevée, c'est ça qui vous réveille le matin. Puis c'est normal. Mais en même temps, le cortisol, qu'est-ce qu'il fout dans la vie? Il est là pour me préparer à l'action. C'est une hormone de stress. Donc, un de ses rôles, c'est d'augmenter le sucre dans le sang. Ah, tiens donc! Ce qui fait que si je mange des glucides le matin, l'effet sur la glycémie est multiplié par la présence du cortisol. Donc, le matin, je devrais être beaucoup plus strict dans mon approche. Le petit déjeuner que je vous ai décrit là, il y a comme 4 grammes de glucides max. Puis, je prends du café noir, puis je prends un verre d'eau. Fait que, tu sais... Mais je peux être un peu plus tolérant le soir parce que le soir, mon cortisol est plus bas parce que la courbe, ça monte le matin puis ça descend en journée. Puis rendu au moment de me coucher, il est à son plus bas normalement, sauf si je suis en stress chronique. Et là, c'est la mélatonine qui embarque. Mais au niveau hormonal, les hormones du matin font que je suis beaucoup plus efficace à aller chercher des glucides pour faire de la glycémie puis à enclencher le problème. C'est pour ça que les diabétiques ont ce qu'on appelle l'effet de l'aurore, où leur glycémie est plus élevée naturellement le matin, ce qui fait paniquer tout le monde. Alors, ça, je peux jouer là-dessus. Alors, il faut savoir ces choses-là, de dire, OK, le matin, si je veux plus d'impact pour ma santé en général, pour mon énergie, pour ma perte de poids, mon déjeuner devrait être plus riche en protéines, en lipides et très pauvre en glucides. Peu importe c'est quoi, ça va être des œufs. Vous aimez des œufs, mangez des œufs, tu sais. Il n'y en a pas de limite.
Un smoothie vert.
Ça dépend de ce que je mets dedans.
Ben oui, un smoothie vert sans trop de fruits, là, un petit peu de bleuet.
Ouais, mais mon smoothie vert, ça me prend des protéines. J'ai mis quoi dedans?
Mm-hmm. Des graines de chanvre.
Bonne chance pour avoir des protéines significatives avec ça. Parce que, vous regardez encore là, prenez le temps de regarder vos étiquettes. Vous allez avoir 5-6 grammes de protéines. Vous ne mettrez pas 3 cuillères à table de graines de chanvre, ça ne sera pas mangeable, votre affaire. Alors, non. C'est là où il faut sortir de « Ah oui, mais c'est des aliments santé » à « Oui, mais moi, j'ai besoin de quoi? » Et c'est là où il faut regarder puis s'informer au-delà de « ça, c'est un aliment santé, ça, c'est la nouvelle mode, ça, c'est un super fruit, je m'en contrefous de tout ça, mon corps a besoin de quoi? »
Alors oui, c'est sûr que moi, je remarque que quand je mange salé le matin, j'ai pas mal plus d'énergie toute la journée que quand je mange sucré.
Autre petit point important, on s'est fait dire depuis le début du 20e siècle que le sel, c'est pas bon. que le sel surcharge les reins, que le sel cause l'hypertension. C'est tout faux. Littéralement faux. Il est vrai que certains hypertendus sont très sensibles au sodium et on voit leur tension augmenter s'ils augmentent le sodium. C'est vrai. Surtout s'ils prennent certains médicaments. À l'opposé, s'ils ont en masse de l'autre électrolyte, parce qu'il y en a deux, hein, sodium, potassium. Alors, s'ils ont en masse de potassium, la sensibilité au sodium diminue. Allons une étape plus loin. Si la résistance à l'insuline a baissé parce que je mange moins glucides, non seulement je ne suis plus sensible au sodium, j'ai même besoin de plus de sodium parce que la résistance à l'insuline fait que je retiens le sodium. J'ai tendance à faire de la rétention sodique, j'ai tendance à faire plein de problèmes comme ça. Donc, il faut manger plus de sel quand je coupe les glucides.
Ça fait tellement de sens ce que vous dites. Ça fait 3-4 semaines que j'ai envie de sel. J'ai baissé mes glucides, je suis en train d'expérimenter moi aussi. Puis j'ai comme, je sens le besoin de sel. Mais là, je comprends
pas. Écoutez votre corps.
Oui.
Je vais juste prendre un exemple paradoxal ou enfin un petit peu ironique. Les canicules, cette année, on en a eu une au mois de juillet, là, même en juin cette année. C'est quoi le problème de la canicule? On entend toujours, tu sais, les vieux, blablabla, problème à se refroidir.
La rétention d'eau.
Pourquoi les vieux? Parce que leur problème de résistance à l'insuline, il est chronique depuis 60 ans. Leurs reins fonctionnent mal, ce qui fait qu'ils déshydratent, perdent du sel. Alors, ils vont boire de l'eau, parce qu'ils ont soif, ou même parce qu'ils sont vieux, leur système de soif est déséquilibré, il est flou, ils ont pas soif, ils boivent pas, ils déshydratent, ils meurent. Mais souvent, ce qui les fait mourir, c'est ce qu'on appelle une encéphalopathie hyponatrémique. C'est le fun, le chinois comme ça, là, j'ai l'air savant. Ça veut dire quoi? Encéphale, cerveau, pathie, ah, maladie. Donc, une maladie du cerveau, hypo, faible, natrémique, sodium. Il manque de sel, ces gens-là. Même affaire pour les marathoniens qui s'effondrent avant au fil d'arrivée. On va les prendre, puis on leur donne pas juste de l'eau, on leur donne du sel.
Puis là, vous parlez de sel, mais de quel sel vous parlez? J'imagine qu'on parle pas du sel blanc.
On parle de n'importe quel sel qui vous tente à un détail près. Je veux, là c'est moi qui je fais mon méchant, là, iodé. Mais je veux iodé, pourquoi? Parce que, un, j'ai besoin d'augmenter mon sel. Deux, les sources d'iode dans l'alimentation, si vous restez pas, tu sais, au Nouveau-Brunswick, sur le bord de la mer, là, ou l'air salin, juste l'air salin vous le donne, votre iode. L'iode, c'est volatile. Je le prends dans l'air ou dans les aliments de la mer. Si je suis loin de la mer, j'en ai pas. Si je mange pas du poisson ou des fruits de mer ou des algues au moins 2 fois par semaine, je suis en carence d'iode. Ah, le premier aliment fonctionnel créé sur la planète au début du 20e siècle, c'est le sel iodé pour contrer l'épidémie de goitre qui s'est enflure de la glande thyroïde. Mais l'iode, c'est tellement plus que la glande thyroïde. C'est impliqué dans plein de métabolismes. Un exemple, l'apport en iode est un facteur de protection contre le cancer du sein. OK? Donc, sel iodé. Lequel? Amusez-vous. Mais un sel de mer qui ne mentionne pas iodé n'a presque pas d'iode dedans parce que l'iode, lors du séchage, s'en va.
OK.
Alors que vous aimiez le sel Himalaya, le sel de mer, je m'en fous, là. Parce qu'ils ont toutes des caractéristiques plus, moins. Les sels plus industriels, complètement blanchis, OK, pourvu qu'il soit iodé, puis attention aux additifs. Les additifs qu'on rajoute pour faire que le sel sorte de la salière, là, posez des questions. Regardez, moi, le trisilicate d'aluminium dans le sel, j'aime pas ça. Moi, je prends le sel d'Himalaya iodé, parce qu'il est brut, parce qu'il y a de l'iode. Mais prenez bien celui que vous voulez, mais ayez de l'iode. Ou alors, vous vous assurez de manger au moins 2 fois par semaine des trucs provenant de la mer pour assurer...
Des huîtres,
des fruits de mer, des trucs de la mer, pas de... Comme les crevettes, attention, la majorité des crevettes qu'on mange, les grosses crevettes, c'est de l'eau douce, ça là. Ça vient du Vietnam puis de ces pays-là, puis c'est embassé d'eau douce. C'est pas celle qu'on... T'sais, la petite crevette nordique, la crevette de Boréal, là, Pandalus borealis, qu'on pêche dans le fleuve, qu'on appelle la crevette de Matane parce que les bateaux arrivent là, mais qui est pêchée à Sept-Îles, ça, c'est extraordinaire en termes de nutrition. C'est pas très gras, par contre. Mais ça contient de l'iode puis des minéraux puis des antioxydants. C'est extraordinaire, là.
OK. Donc, on revient à notre cétogène. On a dévié un peu. Est-ce qu'il y a des gens à qui devraient pas manger
bon,
cétogène?
Est-ce qu'il y a des gens... Il existe des problèmes génétiques assez rares de certaines enzymes qui sont moins efficaces ou voire absentes dans certaines pathologies. Ça existe. L'inverse existe aussi. Il y a eu un cas à Québec qui a passé dans les journaux l'an dernier, une petite fille qui mange un cétogène strict parce qu'autrement, elle serait morte. Un peu comme les épileptiques. parce que pour une raison X, les transporteurs de glucose ne fonctionnent pas, fait qu'elle est en train de mourir de ça. Ils l'ont mis sur un cétogène super strict, là, puis avec énormément de gras, puis la fille a grandi, puis ça va bien ses affaires.
Wow.
C'est des cas exceptionnels, mais c'est ça. Alors, des problèmes de glucose 6-phosphatase, il y a quelques enzymes comme ça qui existent où ce que vous allez constater, à moins d'avoir la preuve génétique, on peut faire avec un test sanguin, c'est super facile. Ben, facile. Ces tests-là sont très compliqués, mais sont accessibles. Mettons ça comme ça. Mm-hmm. On va le trouver, mais c'est très rare dans notre société. On a beaucoup plus de gens qui ont les indications. Vous êtes diabétique, vous avez de l'embonpoint, vous avez une maladie inflammatoire, vous avez du foie gras, qui est l'indication numéro un. On voit des efficacités. En quelques mois, le foie fait tchou, fond. C'est beaucoup plus fréquent, ça, que les contre-indications. Parce que oui, il y en a, mais ils sont rarissimes.
Un des sujets qui est partout présentement, c'est le microbiote. Oui. À juste titre, je pense que c'est important qu'on s'y intéresse. Comment, c'est quoi la relation entre le gras et le microbiote?
Ah, dites-vous que selon les... Parce que quand on parle de microbiote, on est dans l'enfance, c'est le début. Il y a très peu d'études concluantes sur les interventions pour faire varier le microbiote. On est plus dans l'observation. J'ai fait ça, ça a donné ça. Et ce qu'on constate, dans le cas de la diète céto et du microbiote, dans des pathologies comme la sclérose en plaques, comme d'autres trucs comme ça, des maladies complexes où on a essayé, on a constaté qu'on a eu une amélioration de la diversité et une réduction des familles comme les Provotella qui sont potentiellement pathogènes. Le dire de certains que le fait de manger plus gras, moins de glucides, va affecter négativement le microbiote, c'est non seulement pas prouvé, c'est potentiellement faux. Je dis bien potentiellement parce qu'on est dans l'enfance. On n'est pas rendu dans l'absolu. Tu manges ça, il se passe telle affaire. Tu prends tel probiotique, il se passe telle chose. On est dans une espèce de flou artistique. C'est fascinant, mais pour l'instant, la seule chose qu'on va dire, c'est que le cétogène bien fait n'est pas négatif, voire il est bénéfique, en particulier dans les maladies inflammatoires. Deux, quand on réduit les glucides, on réduit les glucides nets assimilables. Ça veut dire quoi? Dans mon calcul de glucides, je prends ma ligne de glucides, je déduis les fibres. Parce que les fibres, je veux les garder. D'où l'importance de manger des légumes, les graines dont vous avez parlé tout à l'heure, chia, lin, on continue, sésame, tournesol. Mais dites-vous que les graines sont des sources de fibres, les légumes, tout ce qui pousse en dehors de la terre, c'est des sources de fibres. Et on a en masse de fibres pour nourrir la fraction du microbiote qui se nourrit de fibres. Mais il y en a qui se nourrissent de gras, il y en a qui se nourrissent de protéines, il y en a qui se nourrissent de nos propres cellules. C'est un environnement complexe. Mais pour l'instant, on n'a pas la preuve que c'est néfaste. On a même des indices que ce soit positif.
Vous, vous avez fait le test il y a 2 ans, je pense. Vous avez documenté votre essai de 4 semaines. Mm-hmm. Combien de temps ça prend pour voir des changements, pour voir des bénéfices?
OK, c'est la question piège, ça. Au sens où ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont réagir très rapidement. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une femme, trentaine, syndrome polycystique, obèse, syndrome de l'ovaire polycystique qui est obèse. Écoutez, la première semaine, elle perd 5 livres, cette femme-là. OK? Vous avez encore une autre femme. Elle a 55 ans. Elle est ménopausée. Elle n'a pas un gros surplus de poids. Ça peut prendre des semaines avant de voir quoi que ce soit.
Même au niveau de l'énergie, je ne parle pas juste de perte de poids, je parle
au niveau de l'énergie. Niveau de l'énergie, normalement, on tombe en cétose, si on est strict, en 36 à 72 heures. L'énergie peut prendre 2 semaines à apparaître parce que quand je suis dans la phase de transition, le corps est en adaptation parce que là, lui veut des glucides, j'y ai enlevé. Et si vous voulez vous amuser, vous allez aller chercher un Facebook Live sur Jean-Yves Dionne, Franchement Santé, qui date de février 2018, où je sors du gym, j'étais avec un copain, on a fait plein d'affaires ensemble, mais cette fois-là, là, ça faisait une semaine que j'étais parti en cétose, et là, je raconte, je suis dans mon auto avant de partir avec mon cellulaire, puis j'explique que j'ai l'impression d'avoir 80 ans. J'ai pas d'énergie, j'ai pas d'endurance, j'ai pas de force musculaire, c'est tout à fait normal.
C'est le keto flu, non?
Ça fait partie des symptômes de keto flu. Le keto flu, la grippe, c'est pas une grippe pantoute, c'est les fameux symptômes d'adaptation ou fatigue musculaire, crampes musculaires, manger plus de sel, garder votre cap, ça prend une semaine, ça part. Même dans certains cas, 3 jours. Moi, ça a pris une semaine. Et plus vous êtes physiquement en forme, plus ça peut être rapide, houlant. Là, c'est paradoxal ce que je viens de dire là, mais il y a des gens, j'ai un copain qui est un de ces extrémistes là qui a fait des Ironman, lui est embarqué dans cette autre, pow, facile. Pourquoi? Okay. Parce que quand on est rendu à faire des longues, longues, longues distances, mon corps, il a appris à faire de la cétose naturelle. Moi, je l'ai jamais fait. Puis j'étais quelqu'un avec une hypoglycémie, donc une résistance à l'insuline très importante. Ça m'a pris un bon 10 jours avant de hop. Mais mentalement, mon énergie était déjà là, là. C'est physiquement, ma journée, ça va. Mais quand je poussais la machine pour faire un effort physique, c'était comme...
Puis est-ce qu'on la pousse, la machine, ou on écoute ça?
Suivez votre instinct.
Okay.
C'est pas plus grave que ça. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plein d'études négatives sur le céto, où on a pris des athlètes, on leur a fait manger le céto pendant 4 jours, puis on les teste. Ben oui, il y a personne en 4 jours qui va être en forme. Personne. Mais 2 semaines, 3 semaines, wow! Puis là, l'énergie se met à monter à tel point que, en juillet, moi j'ai commencé en février, en juillet 2018, je fais une compétition de CrossFit. Et bon, je suis pas un athlète, je vous l'ai dit, je suis en forme, mais je suis pas un athlète. Puis j'ai quand même dans la 50aine bien acquise. Et là, mon but, c'était quoi? C'était pas de gagner puis d'arriver à me classer, c'est de le faire. Juste le faire. Et ne pas me blesser. Parce que quand on se blesse à nos âges respectables, ça oui. fait plus mal plus longtemps.
Longtemps, oui.
Alors donc, je l'ai fait. J'ai pompé comme espèce de vieille machine, mais je l'ai fait, je me suis qualifié, j'ai passé et j'ai fait la gaffe en rentrant ma fiche d'inscription de me mettre dans les experts. Enfin, pas les experts, les comment ils appelaient ça? Pas monsieur tout le monde, mais ceux qui sont déjà dans le fit. Donc, j'étais une classe au-dessus de ce que j'aurais dû faire. Mais je me suis classé pareil, puis j'étais pas le dernier. Puis bon, je me suis pas blessé. J'étais très fier de moi. Morale de cette histoire, quand on est en cétose, l'énergie est très présente. Ça va prendre une semaine, 2 semaines. Il peut y avoir un creux. Peut-être pas pour tout le monde. Mais et hop, on se met à monter, puis cette énergie-là, cette sensation-là se met à augmenter. Là, le problème, c'est si au bout de 2-3 semaines, vous êtes pas rendu dans cet état de « Hey, wow, j'ai de l'énergie », posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de pas correct? Est-ce que vous manquez de quelque chose? Est-ce que vos ratios sont pas corrects? Est-ce que...
Mangez trop de fromage aussi, parce que vous avez parlé de bacon tantôt, mais le fromage aussi...
Bon, le fromage, si vous êtes intolérant, puis ça, c'est la gaffe que moi, j'ai faite. Moi, j'ai beaucoup d'intolérance alimentaire et je mangeais aucun produit laitier. Puis là, durant le céto, je me dis, ben regarde, pow! Je le fais. Là, j'ai pris de la crème. C'est super bon! Sauf que... problèmes respiratoires sont mis à augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, j'ai compris que, hey, OPS, c'est pas parce que t'es en cétose que t'as changé. alors donc, j'ai maintenant, je garde les produits de chèvre de brebis ponctuellement, mais j'ai enlevé, tu sais, la crème quotidienne, puis le yogourt, puis tout. Je mange ça occasionnellement, puis jamais de vache, pour toutes sortes de bonnes raisons, pour moi. Pas pour vous, pour moi.
Je suis contente de vous entendre. Je suis pas la seule nounoune à penser que parce que je change mon alimentation, tout d'un coup, je peux remettre plein de produits laitiers dans mon assiette. Ça marche pas comme ça.
Tu sais, je vais prendre l'exemple d'ici dans ma vie, ma blonde, elle qui fait la même affaire que moi, elle mange du yogourt, de la crème, puis c'est le bonheur total. Je la regarde aller, c'est chanceuse.
La chanceuse, oui.
C'est ça. Si moi, je fais ça, puis même la chèvre, je prends de la chèvre ou de la brebis, puis mais je le fais ponctuellement. Si je le fais régulier, je me ramasse avec encore plus de mucus, puis problème respiratoire, je le fais plus. C'est tout. Mm-hmm. Faut se connaître. Tu sais, si on revient à l'introduction, ce qu'on a fait, c'est pas de décider d'être céto-strict, c'est un choix, ça. Mais d'avoir la lorgnette de choisir mes aliments en fonction de revaloriser les gras et de diminuer l'abondance de glucides, ça devient facile. Puis ça se fait par n'importe qui en fonction de ses caractéristiques à soi.
Question qui vous est souvent posée, est-ce qu'on peut être vegan et cétogène?
Ça se fait, mais c'est très difficile. On peut être restreint en glucides, c'est plus facile, mais il y a deux problèmes majeurs avec plusieurs. Manger végé, là, ça s'improvise pas. Il faut savoir ce qu'on fait. Il y a plein de pièges dans lesquels on tombe facilement si on fait n'importe quoi, dont la quantité de protéines qui est pas suffisante. Les sources de protéines sont presque toujours des sources de glucides. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Réduire en bas de 100 grammes, ça se fait. Ma fille, elle est végane, politiquement tendue, là, c'est absolu. Puis c'est correct, c'est sa vie à elle, c'est pas la mienne. Là. Mais elle a fait la réduction des glucides. Elle n'est pas céto, mais elle est quelque part en bas de 100 grammes. Puis elle a quand même perdu beaucoup de poids, puis elle a retrouvé une taille, puis elle est super cute, puis avant, elle avait un gros problème de poids. Ça se fait. Mais c'est beaucoup plus difficile. Le deuxième problème, outre le fait de savoir ce qu'on fait, c'est l'omniprésence des fameux oméga 6. On a parlé un peu des gras, il faut faire un effort d'augmenter des 3, mais les légumineuses, c'est toutes des 6. Alors, il faut vraiment s'intéresser. Quand je dis que manger végé, ça s'apprend, c'est pas facile. Ça se fait. Si philosophiquement pour vous, c'est hyper important, faites-le. Mais apprenez ce que vous faites. C'est pas ouvrir une canne de bine, là. Hein? Mm-hmm. Il faut vraiment aller au bout du savoir pour savoir comment on fait, comment on prépare et comment on évite les pièges.
Dernière question, après ça, je vous laisse aller. Jeûne intermittent, qui est souvent associé au régime cétogène parce qu'il amène, il amène le corps en cétose. Vous avez émis quelques réserves. Je serais curieuse de vous entendre.
OK. J'ai pas de réserve sur... Enfin, oui, la seule réserve que j'ai, c'est que le jeûne intermittent, si vous avez un IMC très bas, faites attention. Ça veut dire quoi? Si vous êtes maigre, déjà...
OK.
Vous avez une facilité habituellement à tomber dans le jeûne intermittent, puis c'est peut-être pas votre meilleur ami.
OK. OK.
Il y a des gens comme moi qui sont des gens résistance à l'insuline, hypoglycémie, des gens qui ont toujours faim, pour qui le jeûne est plus difficile. Puis je vais être franc avec vous, c'est 99% du problème entre tes deux oreilles.
OK. Okay.
Je m'inclus là-dedans. Okay. Il n'y a pas de problème à manger en restreignant la fenêtre de temps où je mange. Ce n'est pas du jeûne. C'est du jeûne intermittent. Si on veut voir ça autrement, revenons dans mes années 50-60, on mangeait sur une plage de 12 heures. Tu déjeunes, tu dînes, tu soupes, puis après souper, tu manges pas jusqu'au déjeuner suivant. Ça fait que pendant 12 heures, tu manges pas. Ça devrait être la norme. De nos jours, on grignote tout le temps. On se lève, on mange, on grignote avant de se coucher. Ça fait qu'on mange sur 16 à 18 heures, puis on ne mange pas pendant une toute petite plage horaire. Ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir du moment où la plage horaire où je mange est restreinte à 8 heures, donc il y a 16 heures où je mange pas, j'augmente les bénéfices de mes efforts nutritionnels, je mets mon corps au repos pendant 16 heures, ma résistance à l'insuline baisse plus vite, ça devient un outil thérapeutique et un style de vie tout à fait possible pour un paquet de monde. Mm-hmm. La question, c'est quel repas vous sautez? Si vous vous souvenez, j'ai parlé du cortisol, la tendance ici, c'est de sauter le déjeuner, peut-être qu'on devrait sauter le souper puis garder le déjeuner. Philosophie. Mais en termes de physiologie, ça marche mieux, ça. Mais au-delà de ça, vous avez parlé de tomber en cétose plus vite. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai à 16 heures. C'est vrai quand je fais des jeûnes de plus que 24 heures. Alors, le jeûne intermittent, ou en anglais, alternate day, donc les jours alternatifs où je mange pas un jour, je mange le lendemain, je mange pas le suivant, là, je mange un jour sur deux ou deux jours sur trois. Quand je saute 36 heures, je mange jusqu'au souper, je mange pas toute la journée, puis je mange au déjeuner du jour suivant, j'ai 36 heures qui est apparu. Là, je suis tombé en cétose, peu importe le style de bouffe que je mange.
OK.
Mon corps tombe en cétose en 36 heures. C'est progressif. Il y a des gens à 16 heures qui vont faire de la cétose, mais la majorité des gens ne tombent pas en cétose à 16 heures. Ça prend plus de temps pour épuiser mon glycogène. Ça prend plus que 24 heures, en fait. Et donc, c'est un outil. Puis si on veut être franc et prendre une perspective historique, manger trois repas par jour ou plus tous les jours régulièrement, c'est récent, cette affaire-là. Là.
Mm-hmm.
C'est toutes les religions ont un jeûne associé. C'était le vendredi maigre chez les catholiques, c'était l'Avent.
Le ramadan
chez les musulmans. Bon, les juifs, j'ai pas les noms, mais ils ont la même affaire. Les hindous, c'est la même chose. Tout le monde a une période, que ce soit pour célébrer une divinité ou peu, je m'en fous. Mais toutes les religions ont inclus quelque part une forme d'abstinence de manger.
Mm-hmm.
Et si on veut s'amuser, toutes les époques ont eu des époques de disette où on mangeait moins. Le Québec, la Nouvelle-France, le printemps, là, quand la cabane à sucre arrivait, le monde avait faim en maudit.
Mm-hmm.
Et la cabane à sucre, c'était comme le party parce que la bouffe revenait.
Les oreilles de Christ, c'était plus facile à digérer à ce moment-là.
Les oreilles de Christ, le sirop d'érable, la poche de fleurs, tu sais, les tarteaux de sarrasin. On était un peu tannés durant l'hiver de manger, tu sais, juste ce qu'il y avait disponible parce que l'hiver était hyper dur. Le cyclique, ça a toujours fait partie de l'humain. Puis là, on n'a plus. On a des fraises fraîches à l'année. Ça n'a pas d'allure.
Mm-hmm.
Pas de pas en manger. C'est juste de poser des questions, ils viennent d'où? Alors, ouais. Le jeûne intermittent embarque dans cette notion-là. Il n'y a pas de risque à jeûner jusqu'à quelques jours. Attention, si vous êtes déjà maigre, moi j'ai un problème avec ça. Vous avez un surplus de poids, suivez votre corps. Faire des 36 heures, il n'y en a pas de danger. Est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que c'est nécessaire? C'est une autre paire de manches. Moi, je pense pas que c'est nécessaire. Que ce soit utile, je suis convaincu, j'ai même fait un webinaire là-dessus. J'ai même enseigné ça à l'université. Mais c'est pas nécessaire pour tout le monde. C'est un peu comme le cétostrict, je vous l'ai dit depuis le début. C'est loin d'être nécessaire. C'est utile. Mais c'est pas nécessaire. De porter attention aux glucides, oui. De porter attention à la plage horaire, au nombre de repas, certainement. De raccourcir la plage. Tu sais, on ne devrait pas manger 12 heures par jour.
Puis il y a 12 heures. Puis manger à toutes les deux heures.
C'est absurde, ça. C'est basé sur absolument rien. Ça entretient ma résistance à l'insuline. Puis c'est vraiment physiologiquement à contresens. Donc, d'arrêter de manger après souper, de ne pas manger en soirée, sauf exception, puis remanger au déjeuner, ça marche. D'enlever un repas, ça marche aussi, si ça vous va. C'est pas une obligation.
En terminant, Jean-Yves, les gens qui voudraient faire un premier pas, on commence où et où est-ce qu'on peut en savoir plus sur vous?
Bon, le premier pas, faites-vous une tête, OK? Lisez, allez voir les documents sur cliniquereversa.com, allez voir Diet Doctor si vous lisez en anglais, allez voir sur Vive le Bacon si vous voulez, allez voir sur toutes sortes. Faites-vous une tête. Faites le petit devoir que je vous ai mentionné. Regardez ce que vous mangez. Observez. Vous voulez un coaching personnel, vous voulez me rencontrer avec grand plaisir, jydionne.com. Allez voir consultation ou juste écouter une vidéo qui est là. Je vois du monde en privé. Puis, habituellement, les gens qui viennent me voir, c'est pas du monde facile. C'est du monde qui ont des problèmes. T'sais, ils ont des médicaments, ils ont ci, ils ont ça, puis ils ont des questions. J'ai du monde qui viennent, je veux augmenter mon énergie. Cool! Vous voulez savoir ce que je fais? Il y a deux places. jydionne.com, il y a un blog. Il y a Jean-Yves Dionne, Franchement Santé sur Facebook. Il y a plein d'affaires, des lives. J'en fais à peu près deux par semaine. Toutes sortes de trucs. Il y a l'autre site, c'est apothicaire.ca ou academy.apothicaire.ca. Apothicaire, il y a un H dedans. Apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien. Moi, je me surnomme moi-même l'apothicaire éclectique. Amusez-vous avec ça. Et là, il y a les enseignements. Alors, que ce soit pour les professionnels ou le grand public, il y a les concentrés de santé où j'ai un truc sur le site. Il y a trois modules d'une heure et demie où je donne tout. Il y a des documents, il y a plein d'informations. Amusez-vous avec ça. L'idée, c'est de le faire dans le plaisir, de ne pas aller trop vite puis de savoir ce qu'on fait. Une fois qu'on a ces bases-là, on a des défis qui sont personnels. On en a parlé. On a des. Tu sais, moi, j'aime pas telle affaire. Mange-en pas. Moi, je réagis à telle chose, mange-en pas, mais mange autre chose. Tu sais, couper les glucides mais pas augmenter les gras, c'est absurde. Parce que votre corps va être affamé. Votre corps va essayer de métaboliser des protéines, c'est une mauvaise idée. Alors, ce qu'on veut, c'est des protéines comme bloc de construction, pas comme carburant. Donc, okay. Si je baisse un carburant, j'augmente l'autre. Autrement, mon corps est pas heureux. Il faut vraiment écouter son corps puis apprendre les bonnes affaires. C'est un processus. Mais c'est un processus de longévité.
Jean-Yves, un immense merci. J'aurais pu continuer comme ça pendant des heures. J'aurais eu plein d'autres questions à vous poser.
Et on recommencera.
On recommencera, voilà.
Avec plaisir.
Alors, un grand merci, puis ben à la prochaine.
Merci, Eugénie. Merci à tout le monde, puis j'espère que vous avez aimé ça. Salut!
Bye!
Rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre. Je tiens à vous rappeler que l'objectif de cette balado est purement informatif et ne remplace en aucun cas un avis ou un diagnostic d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Si vous souhaitez de l'information supplémentaire et si vous avez besoin d'aide, je vous invite à chercher une personne pleinement qualifiée qui pourra vous aider. Bonne santé!